restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un rouage particulièrement pervers de cette économie mondiale, l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est tirer le meilleur parti des législations fiscales, en clair, payer le moins d'impôts possible. Comme le droit fiscal est une matière infiniment complexe, payer le moins d'impôts possible, ce n'est pas trop difficile quand on a à sa disposition des armées de comptables et que donc on est une grande entreprise. Oui, mais voilà, si ce n'est pas très moral, c'est souvent légal. Et il a fallu longtemps pour que les grandes puissances s'en inquiètent. En clair, tant que les pays en développement ont été les seules victimes de ce mécanisme, cela ne gênait pas grand monde. Mais à partir du moment où les pays européens et les États-Unis se sont rendus compte que eux aussi y perdaient beaucoup, alors là, fini de rigoler. Et tellement fini de rigoler qu'on en parle maintenant sur RFI avec une émission que j'ai intitulée « Les États face aux défis fiscaux » avec quatre invités que je vous présente maintenant. D'abord en duplex de Genève, dans le studio de Radio des Nations Unies. Bonjour Nicolas Mestre.
Bonjour.
Nicolas Mestre, vous êtes économiste à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Pourquoi la CNUSED s'intéresse-t-elle à ce mécanisme d'optimisation fiscale ?
Alors en deux mots, la CNUSED s'intéresse depuis pas mal d'années à ces questions, principalement pour la perte de revenus que ça engendre pour les États et qui finalement leur empêche en fait de mener à bien des politiques de développement. Et disons c'est ça la raison principale pour laquelle on s'intéresse à ces questions. Quoi.
On en parlera tout au long de l'émission. En studio ici à Paris, trois invités. D'abord vous, Marcona Essangui, bonjour.
Bonjour.
Marcona Essangui, vous êtes gabonais, membre de la coalition internationale « Publiez ce que vous payez ». L'optimisation fiscale, c'est un sujet auquel le militant que vous êtes est confronté en Afrique ?
Bien entendu, parce que nous sommes confrontés à ce problème en Afrique, tout simplement parce que les gouvernements tendent à retirer un certain nombre de politiques fiscales à des entreprises sous le prétexte d'attirer des investisseurs.
Avec nous également en studio à Paris, Didier Julien, bonjour.
Bonjour.
Didier Julien, vous êtes consultant, blogueur sur le site du journal Les Échos, grand spécialiste des questions minières. Vous avez travaillé longtemps pour la société russe Norilsk Nickel. Échapper à l'impôt, c'est une préoccupation pour ces grandes entreprises minières ?
Non, pas échapper à l'impôt, mais effectivement optimiser de façon à payer autant d'impôts que les concurrents.
Enfin, je termine ce tour de table par vous. Vincent Vicard, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'économie à l'Université Paris-Dauphine. Les techniques d'optimisation fiscale, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans les universités ? Ça fait partie des cours ?
C'est quelque chose qui a, pendant longtemps, pas été énormément enseigné, en tout cas en cursus normal d'économie, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, notamment du fait de l'importance des multinationales dans les économies, riches comme pauvres. Donc c'est une question qui devient de plus en plus importante.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons également Pascal Saint-Amans, directeur de la division fiscale de l'OCDE, l'économiste béninois Abdoulaye Biochane, et nous irons à Bruxelles et à l'île Maurice, à Port-Louis, avec les reportages de nos correspondants Grégoire Laurie et Abdoulaye Rani. Vincent Vicard, je me tourne d'abord vers vous. C'est un phénomène économique si important que cela, l'optimisation fiscale ?
Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer à cause de la matière qu'on étudie, qui est par définition cachée par ces entreprises multinationales. Et par ailleurs, c'est difficile à mesurer parce que ça concerne un certain nombre, beaucoup de flux à l'intérieur des multinationales, de flux qui sont très divers. Ça peut être des flux de biens entre filiales d'une même multinationale situées dans des juridictions différentes, mais ça peut être également des flux de services, donc des redevances pour les brevets ou l'utilisation d'une marque, ou des flux financiers comme des prêts à l'intérieur des groupes. Donc ça rend l'évaluation de cette évasion fiscale particulièrement difficile. Il y a des estimations qui ont été faites, mais qui sont particulièrement difficiles.
On a un chiffre un peu approximatif ?
Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, qui peuvent être très élevés ou très faibles. Dans le cas, par exemple, de certains pays riches pour lesquels les évaluations les plus précises ont été faites, dans le cas des États-Unis, il y a des évaluations qui placent cette évasion fiscale à hauteur de 25% de l'impôt sur les sociétés. C'est des évaluations hautes, mais qui sont sujets à beaucoup d'incertitudes, finalement.
Alors, vous avez prononcé, Vincent Vicard, un mot, évasion fiscale. Nicolas Mestre, à Genève, est-ce que l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, c'est la même chose?
Alors, bon, ça, il faudrait rentrer après dans un cadre juridique pour vraiment définir ces deux termes. Et normalement, l'idée qui est là derrière, c'est que l'évasion fiscale, c'est pas quelque chose d'autorisé, alors que l'optimisation fiscale, disons, ça respecte, entre guillemets, la loi, même si c'est pas forcément l'esprit de la loi, et on pourra revenir là-dessus par la suite. La frontière entre les deux, elle est généralement assez floue, parce que beaucoup de pratiques qui sont peut-être considérées dans un premier temps comme de l'optimisation fiscale, si finalement le pouvoir juridique ou judiciaire se met à les analyser de manière beaucoup plus spécifique, il y a le risque en fait qu'elle finalement elle s'avère être de l'évasion.
Alors, Nicolas Mestre, la chasse à l'optimisation fiscale dont on parle depuis le début de cette émission, elle est en quelque sorte ouverte. Les grandes multinationales, j'en cite quelques-unes, Google, Disney, Ikea, Amazon, Apple, la liste est sans fin, sont dans le collimateur des États. Et l'homme qui est à la tête en quelque sorte de cette traque, je ne sais pas s'il apprécierait le mot, c'est Pascal Saint-Amans, un Français qui dirige le département de politique fiscale de l'OCDE. Je l'ai rencontré il y a quelques jours et voilà ce qu'il dit de l'optimisation fiscale.
L'optimisation fiscale en soi n'est pas nocif. Ce qui est nocif, c'est l'amplitude qu'a pris ce phénomène, parce que en raison des défaillances des règles de la fiscalité internationale, l'optimisation est devenue massive et on aboutit à une situation de ce qu'on appelle double non-imposition, les profits des multinationales pouvant n'être taxés nulle part. Donc on est sur une optimisation qui aboutit à zéro fiscalité et donc il faut changer les règles pour rendre ceci impossible.
Et c'est la mission de l'OCDE ?
La mission de l'OCDE, c'est d'éliminer les doubles impositions, faire en sorte qu'un investisseur, lorsqu'il investit dans un autre pays que le sien, ne soit taxé qu'une fois, soit dans son pays de résidence, soit dans l'autre pays. Donc il faut éliminer les doubles impositions, c'est ce qu'on fait, on a un modèle de convention fiscale et on travaille en ce sens-là, mais on doit aussi veiller à ce que les investisseurs soient taxés quelque part et qu'ils ne bénéficient pas d'une double non-imposition, et c'est le cas du projet de lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices, on appelle ça BEPS en anglais, qui est le projet phare de l'OCDE.
Sur lequel vous travaillez ?
Sur lequel nous travaillons, avec le soutien du G20, absolument.
Et alors, quelles sont les mesures que vous avez préconisées jusqu'à présent ?
On a demandé au G20 d'accepter un plan d'action de 15 mesures. Et on doit développer ces 15 mesures en 2 ans. C'est ce que l'on a proposé en 2013, on est en 2014. On vient de présenter au G20 à Brisbane les 7 premières mesures et on aura 8 mesures supplémentaires à la fin de 2015, de manière à changer totalement les règles de fiscalité internationale.
Alors, la philosophie, c'est quoi ?
La philosophie, elle est très simple. C'est de réaligner la localisation des profits avec la localisation des activités. Aujourd'hui, vous
êtes... Ça, c'est un peu jargonnant. Ça veut dire quoi ?
Très concrètement, vous avez aujourd'hui 2000 milliards de dollars de profits cumulés de sociétés américaines aux Bermudes. Qu'est-ce qui se passe aux Bermudes ? Il n'y a rien. Il y a des contrats, il y a du financement, mais il n'y a pas d'activité économique réelle. Et donc on dit, ce profit-là, il ne doit pas être aux Bermudes. Il doit être aux États-Unis, où vous avez les équipes des entreprises qui ont développé la propriété intellectuelle et les biens et services, ou en Europe, ou en Asie, où il y a les consommateurs de ces biens et services, où il y a des profits qui sont également réalisés, mais pas dans une entité localisée dans un paradis fiscal où il ne se passe rien.
Alors sans trop entrer dans la technique, on va quand même un peu décortiquer les mécanismes de cette optimisation fiscale. Pascal Saint-Amans évoquait à l'instant ce qu'on appelle le transfert de bénéfices. Vous en parliez tout à l'heure. Vincent Vicard, c'est quoi exactement le transfert de bénéfices ?
Alors, le transfert de bénéfices, c'est le fait pour les multinationales de localiser leurs bénéfices dans une juridiction fiscale qui est différente de celle où leur activité réelle réside. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de faire cela. Les premiers mécanismes les plus évidents, c'est dans leurs échanges à l'intérieur du groupe entre filiales. Elles peuvent manipuler leurs prix, les prix, ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire les prix qu'elles fixent dans leurs échanges quand elles exportent des biens ou des services.
C'est-à-dire, je fabrique quelque chose, je le revends à une filiale.
Exactement. Et donc, si je suis dans un pays à haut niveau de taxation, je vais réduire le prix de façon à diminuer mon profit dans ce pays-là et de localiser mon profit dans le pays de destination où le taux de taxation du profit va être moins important.
Didier Julien, vous incarnez un peu l'entreprise avec un grand E à ce micro. Le transfert de bénéfices, l'optimisation fiscale, il faut en faire absolument ?
Moi, je crois surtout qu'il faut se rendre compte que les États ont décrété une certaine iniquité devant l'impôt. Ce sont les États qui l'ont décrété. ce sont pas les entreprises. Iniquité devant l'impôt, c'est-à-dire que les personnes morales comme les personnes physiques ont le droit de payer moins d'impôts que leurs voisins. Ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Des pays ont dit, si vous venez chez moi, vous payerez moins d'impôts que si vous êtes là-bas, dans un autre pays. Donc ça c'est la première chose. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur de Saint-Amand, c'est simplement que il y a eu une explosion de ces opérations qui rend le système aujourd'hui non viable, parce que tout se concentre dans des petits pays où effectivement on ne paye aucun impôt. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce domaine, c'est de voir comment le Luxembourg, dont on a parlé récemment, a réussi à réorganiser son industrie en vendant son système d'impôts. Et en disant, moi je ne veux plus faire de l'acier, mais au contraire, je veux me développer dans les nouvelles technologies. Et donc on s'aperçoit que l'impôt devient un bien comme un autre, de façon à attirer des entreprises. Et ces entreprises qui sont attirées, qu'est-ce qu'elles font? Elles réagissent comme n'importe quel client. Elles vont juste acheter un impôt là où c'est le moins cher, et dans ce pays, elles seront plus heureuses que si elles étaient autre part.
Moi, vous c'est en pensez comme ça quoi, Marc-Onay Sangui, vous en pensez quoi de ce mécanisme?
Ben, je pense que c'est ce type de mécanisme que nous combattons dans nos pays, parce que il y a certains pays en Afrique centrale qui ont mis en place des partenariats privés-publics, et nous soupçonnons toute exonération d'impôts comme une sorte de collusion entre ceux du pouvoir qui se cachent derrière des multinationales et des entreprises qui sont exonérées d'impôts. Je prends le cas du Gabon où certaines multinationales, quand elles s'installent, la première condition à leur exiger, c'est de ne pas payer les impôts. Et c'est une condition pour attirer les investisseurs. Ça, c'est ce qui se dit. Sauf que derrière ce mécanisme se cache une sorte de blanchiment d'argent. Ça, c'est notre avis.
Alors, ces derniers jours, le Luxembourg, on en parlait un instant avec vous, Didier Julien, a été mis sur la sellette. Ce petit État européen a mis en place une législation très avantageuse pour les multinationales qui s'y précipitent pour installer des filiales, pour payer peu ou pas d'impôts sur les bénéfices réalisés ailleurs. Le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, est sous le feu des critiques parce qu'il était Premier ministre quand ces législations ont été mises en place, mais il peut compter sur le soutien de la classe politique luxembourgeoise, comme Grégoire Laurie, correspondant de RFI à Bruxelles, a pu le constater.
Face aux différents scandales d'évasion fiscale, les institutions européennes disent vouloir agir de façon ferme pour mettre un terme à cette guerre financière entre les États membres. Si le Luxembourg est particulièrement dans la tourmente, il n'est pourtant pas le seul pays à pratiquer le système de tax ruling. Ce dispositif permet à une entreprise de connaître à l'avance son traitement fiscal. Une réalité que l'eurodéputé libéral luxembourgeois Charles Geurens aime à rappeler.
Ma première réaction, c'est de faire en sorte que le débat devienne objectif, qu'on parle du principe et qu'on ne fasse pas du bashing d'un pays ou d'une personne. On a tapé sur un seul pays alors que 21 autres pays pratiquent des décisions fiscales anticipées. Donc j'ai dit à mes interlocuteurs, est-ce qu'on parle d'un seul pays? Est-ce qu'on parle d'un système? Est-ce qu'on parle des principes et de leur application? Si c'est la dernière option, alors qu'on parle d'un système qu'il importe de revoir.
En réponse à ces différentes affaires, la Commission européenne dit vouloir agir pour pousser les pays membres à harmoniser leur politique fiscale. Sur le papier, l'idée semble convaincre les 28. Sa mise en œuvre, en revanche, s'annonce beaucoup plus problématique. Philippe Lamberts, coprésident des Verts au Parlement européen.
Ça, c'est évidemment l'axe le plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il requiert l'unanimité des États membres. Donc, si on réduit les différences entre les codes fiscaux des États membres, on réduit les possibilités d'évasion. Ces choses-là sont prévues dans un projet directif sur l'asset consolidé commune sur l'impôt des sociétés, dossier qui a été initié par la commission précédente, qui est au surgélateur au Conseil. Ils ne veulent pas en entendre parler. Eh bien, il faut ressortir ce dossier.
Pour Charles Geurens, les difficultés politiques sont moins fortes qu'elles n'y paraissent entre les capitales.
Non, il faut voir un peu dans quelle mesure ils semblent faire du blocage. Je ne crois pas qu'il y ait du blocage. Je crois que les pays se défendent parce qu'ils veulent défendre leur réputation. Mais un pays comme Luxembourg, par exemple, il est prêt à contribuer à élaborer de nouveaux standards, de nouvelles bases sur lesquelles reposera ensuite la nouvelle fiscalité.
À cette même question sur un éventuel accord fiscal entre les 28, Philippe Lamberts a lui un avis très différent.
La réponse est clairement non. Et donc, clairement, les tenants de la pensée unique qu'on rencontre aussi bien à gauche qu'à droite dans cet hémicycle, en fait, espèrent que la tempête se calme rapidement, de manière à ce qu'on puisse passer à autre chose et revenir aux pratiques d'avant. Clairement, il n'y a aucune intention dans le chef des chefs d'État et de gouvernement et de leurs ministres de cesser la guerre fiscale qui se font.
Pour preuve de la sensibilité de ce dossier, les eurodéputés ne sont pas parvenus à s'entendre sur la mise en place d'une commission d'enquête. Le Parlement réalisera seulement deux rapports spéciaux.
Alors Vincent Vicard, cette guerre fiscale, elle va prendre fin en Europe ou pas?
Le cas du Luxembourg est assez intéressant parce que ce qu'il montre, c'est effectivement qu'il y a une capacité des États à décider de leur niveau de taxation, c'est leur souveraineté fiscale. Mais la question qui se pose, et notamment particulièrement en Europe, c'est la question de est-ce que en diminuant leur taux d'imposition, est-ce qu'ils vont siphonner la base fiscale de leurs partenaires, c'est-à-dire la capacité des entreprises multinationales à localiser leurs profits, comme on disait tout à l'heure, au Luxembourg, alors que leur activité réelle n'y est pas. Et effectivement, là, le problème n'est pas celui du Luxembourg, mais le problème est celui du système fiscal international et de la capacité pour ces multinationales à exploiter des failles les juridictions fiscales nationales de façon à localiser leurs profits dans un pays à faible taxation. Et donc, ce système qui est proposé par la Commission et proposé par la Commission depuis assez longtemps, reviendrait justement à consolider les profits des multinationales au niveau européen.
Qu'est-ce que ça veut dire consolider ?
C'est-à-dire à considérer le profit des multinationales sur le sol européen comme un profit qui appartient à une seule entité et qui n'est pas
qui n'est pas morcelé entre 28 États.
Exactement, qui n'est pas morcelé entre 28 États, et ensuite à allouer, avec une formule qui reste à définir, quelle part de ce profit va être taxée dans quel pays, en fonction de l'activité. Donc dans les formules, en général, on évoque plusieurs types de poids qu'on pourrait utiliser. Ça peut être le chiffre d'affaires, l'emploi dans chaque pays, les actifs financiers dans chaque pays, de façon à rapprocher l'activité réelle de la localisation des bénéfices des multinationales.
Didier Julien, ça veut dire une administration fiscale fédérale? C'est un peu à l'opposé de ce que vous décriviez à l'heure.
Moi, ce que je décrivais, c'était la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une concurrence entre États, et non seulement en Europe, mais dans le monde entier, parce que je lisais encore tout à l'heure qu'au Luxembourg, il y a 15 ans, il y avait quasiment zéro Américain à s'y être installé. Aujourd'hui, ils sont 15 000. Je viens de dire une bêtise. Ils étaient 7 000 et ils sont 15 000. Ils ont doublé en 15 ans, tandis que les revenus nets sont passés par quasiment de zéro à 80 milliards. Donc, on s'aperçoit que le Luxembourg a réussi à attirer des gens. Hein. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez à l'instant sur la clé de répartition, c'est justement comment répartir un impôt commun à travers 28 États, sachant que, par exemple, imaginons que les multinationales américaines restent au Luxembourg, toutes celles qui sont dans la tech, les Apple, les Google, etc., les Microsoft, et que l'on dise, bon, on répartit l'impôt en fonction des employés et non pas du chiffre d'affaires. On aurait changé le système pour aboutir quasiment au même résultat.
Nicolas Mestre, à Genève, à la CNUSED, vous en pensez quoi de ce débat ?
Non, je pense en effet que tendre vers ce qu'on appelle une taxation unitaire, à savoir qu'on essaye de prendre en compte qu'on paye des impôts par rapport à la présence économique et pas uniquement où on peut les déclarer, ça c'est une proposition qui va dans le bon sens. Bien entendu, il va falloir après se mettre d'accord sur une clé de répartition. On proposait généralement les actifs physiques, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Ça c'est quelque chose qui doit être discuté, mais c'est en soi quelque chose qui est une nette amélioration par rapport au système actuel, où chaque sous-entité est considérée comme une entreprise, disons, différente entre les États. Et là, on peut beaucoup plus facilement, disons, transmettre du profit vers des juridictions qui ont des taux d'imposition beaucoup plus bas, quoi.
Ça rapporterait plus aux États européens ?
Certains États... voilà, exactement, quoi.
Ça serait mieux réparti, je crois, entre les différents États. Excusez-moi,
Didier Julien,
mais ça serait mieux réparti entre les États. Moi, j'approuve toute transparence. Et comme vous le disiez à l'instant, plus on taxe là où se font les affaires, mieux ça vaut. J'espère simplement que les États, et en particulier Bruxelles, les gens à Bruxelles, arriveraient à se mettre d'accord. Mais l'expérience nous démontre que dans des situations épineuses comme celle-là, ça prend des années avant que les gens ne se mettent d'accord. Et donc, je persiste à penser que les États faibles, si je puis le dire, économiquement faibles, continueront à tenter d'attirer les entreprises par des impôts tout aussi faibles. On s'est branché sur Luxembourg, mais il y a l'Irlande, l'Angleterre, la Néerlande, etc.
Alors c'est la fin de la première partie de cette émission Éco d'ici Éco d'ailleurs, consacrée à l'optimisation fiscale. Nous nous retrouvons dans 3 minutes avec nos invités après un flash d'actualité. Éco d'ici, Éco d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nous parlons de l'optimisation fiscale, un défi pour les États, avec quatre invités. D'abord en duplex de Genève, Nicolas Mestre, économiste à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Et puis ici en studio à Paris, Didier Julien, spécialiste des questions minières, Marc Onaessangui, gabonais, membre de la coalition internationale Publiez ce que vous payez, et Vincent Vicard, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Tout à l'heure, nous avons entendu Pascal Saint-Amand s'évoquer la lutte contre l'optimisation fiscale. Est-ce que la France perd beaucoup d'argent à cause de cette optimisation fiscale, Vincent Vicard?
Alors, c'est très difficile à estimer. On peut l'estimer pour certaines activités, notamment les échanges de biens, c'est quelque chose qu'on peut estimer et qui est relativement modeste. Il ne faut pas oublier que la taxation des entreprises, c'est de l'ordre de 3% du PIB en France. Et donc, il y a des contrôles par l'administration fiscale sur ces flux des entreprises multinationales. Donc, ça représente une partie relativement importante de ces 3%, mais ce n'est pas non plus un flux complètement démesuré. Et par ailleurs, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que c'est difficile de le mesurer, mais ce qu'on sait, c'est que les entreprises multinationales, elles répondent de manière importante aux variations de taxation. C'est-à-dire qu'elles vont se localiser, comme on le disait tout à l'heure, dans les pays où la taxation est la plus favorable. Exactement. Donc ça veut dire quand même que effectivement, elles sont pas capables de localiser complètement leurs bénéfices où bon leur semble. Et donc l'ampleur de ce phénomène d'érosion des bases fiscales est forcément limitée, puisque on voit que les entreprises multinationales continuent à se localiser dans les pays à faible taxation.
Mais on voit qu'un pays comme la France a des difficultés économiques. Est-ce qu'il peut se permettre de lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises qui seraient susceptibles de venir s'installer, s'implanter dans l'Hexagone sans y payer d'impôts, mais en y créant des emplois, par exemple? Didier Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Paris peut lutter efficacement et a les moyens économiques en ce moment de lutter contre ce mécanisme?
Si vous me dites que la France arriverait à créer des emplois en attirant des sociétés étrangères, mais tout en leur permettant de payer leurs impôts ailleurs, on a déjà les emplois. C'est déjà pas si mal. Mais dans ce cas-là, je me demande où les impôts seraient-ils payés. Est-ce que ce serait en Europe? Et dans ce cas-là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, en adoptant une nouvelle clé de répartition entre les différents pays européens, ce qui me semble, moi, tout à fait judicieux. Ou bien est-ce que ces entreprises ne paierait pas d'impôts parce qu'elle serait située aux îles Caïmans, aux îles Vierges, autre part. Et là, ça pose réellement un problème de déontologie, non pas d'entreprise, mais de déontologie des États, tout simplement. Je crois qu'il faut admettre que les États doivent commencer à faire le ménage chez eux. Parce que celui qui lève l'impôt, c'est pas l'entreprise. L'entreprise, elle ne fait que le payer. C'est l'État. Or, c'est l'État les États qui peuvent décider entre eux comment est-ce qu'ils se répartissent l'impôt mondial, tout simplement, en disant j'accepte qu'on paye très peu d'impôts, mais j'ai tellement d'entreprises que ça fait énormément d'impôts, tandis que quelqu'un comme la France dit moi, je voudrais juste ma quote-part.
Un impôt mondial? Vincent Vicard.
Un impôt mondial, ça paraît très difficile à mettre en place, puisque, comme on l'a dit, il y a des pays qui bénéficient de ces systèmes de localisation des profits des multinationales, donc ça serait très difficile à mettre en place. Et on voit bien déjà qu'au niveau européen, où on a déjà une coopération supranationale importante, ça reste difficile de mettre en place une assiette commune et une clé de répartition. Donc au niveau mondial, c'est assez peu probable, et d'ailleurs l'OCDE, dans le mécanisme qui a été, le plan d'action qui a été évoqué tout à l'heure par Pascal Saint-Amand, n'a pas voulu aller dans cette direction parce que justement il n'y a pas de consensus international pour réformer en profondeur le système. Donc ces réformes en profondeur, elles auront lieu plutôt au niveau régional, dans des régions intégrées comme l'Union européenne. Mais une des questions qui est importante sur la taxation, c'est effectivement qu'on ne peut pas faire de réformes et lutter contre ces mécanismes d'évitement de l'impôt des multinationales au niveau des pays. C'est forcément une action concertée d'un certain nombre de pays qui va permettre de lutter contre ces phénomènes. Et par ailleurs, il y a un mécanisme aussi important, c'est l'impact que ça va avoir sur la concurrence entre firmes. Puisque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on pourrait éventuellement dire, on attire des emplois en France, mais les entreprises ne payent pas l'impôt en France. Mais dans ces cas-là, ça va créer une distorsion de concurrence entre les entreprises multinationales et les entreprises domestiques. Et ça, c'est une question qui est relativement importante, puisque on est dans une situation, effectivement, où on doit faire de la consolidation fiscale, mais on doit aussi relancer la croissance. Et dans ce cadre-là, favoriser la concurrence entre les petites entreprises domestiques qui sont appelées à grandir et les grandes multinationales nécessite qu'elles soient soumises exactement au même système d'imposition.
Nicolas Maestre, à la CNUSED, vous êtes un peu au cœur de ce problème. Les Nations Unies, des accords régionaux qu'évoquait Vincent Vicard à l'instant, vous le voyez apparaître, ce nouveau monde fiscal ?
Alors, malheureusement, et nous, à la CNUSED, disons qu'y avons plutôt le point de vue des pays en développement, on le voit malheureusement pas émerger, quoi, d'autant plus au niveau mondial. Et ça, pour plusieurs raisons, notamment parce que le leader de cette réforme est essentiellement l'OCDE et le G20. Et donc là, il y a dans la plupart des pays du monde, notamment en développement, qui n'y sont pas représentés. Donc leur voix, disons, n'est pas vraiment prise en compte. Et donc ça, c'est le principal point. Maintenant, je voulais juste, si vous permettez, revenir sur quelque chose qui vient d'être dit par rapport aux firmes qui se localisent en fonction des profits. Là, je veux dire, il faut peut-être faire une distinction, notamment si des firmes qui sont mobiles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Si vous prenez par exemple Starbucks, une firme multinationale, bon ben là, ils ont des entités à chaque coin de rue et ça serait, disons, pas complètement, de manière même unilatérale, pour un État de décider en fait de la manière qu'il va de taxer Starbucks en fonction de son activité économique réelle.
Du nombre de cafés qu'ils servent.
Oui, ça c'est donc quelque chose qui est tout à fait possible à mettre en place. Après, c'est clair que pour les entreprises qui sont beaucoup plus présentes dans le niveau high-tech et tout ça, bon ben là, c'est plus compliqué parce que c'est des choses qu'on a la peine à chiffrer, quelle est finalement la part des salaires qui est versée pour développer des softwares, qui est versée pour les brevets, etc. Mais en creusant bien et en mettant aussi une plus grande équipe ou plus de ressources pour les autorités fiscales, je pense qu'il y a moyen aussi quelque chose de faire unilatéralement, quoi. Maintenant, c'est sûr que en tant qu'Organisation des Nations Unies, nous, on prône une solution multilatérale concertée et par là même aussi renforcer notamment le comité d'experts sur la coopération internationale en matière fiscale des Nations Unies, qui est en fait l'organisme pour mener à bien, disons, cette réforme au niveau mondial.
Alors la France, l'Europe, les États-Unis ne sont pas les seuls concernés par ce mécanisme de l'optimisation fiscale, on en a déjà dit un mot. L'Afrique, en quelque sorte, a été une pionnière, bien malgré elle, de ce phénomène. Écoutez ce qu'en dit l'économiste béninois Abdoulaye Biochane, qui était la semaine dernière le grand invité de l'économie sur RFI.
Je participe en ce moment à un panel panafricain, présidé par l'ancien président d'Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, sur les transferts illicites de ressources hors d'Afrique. Et nous avons, à l'intérieur de ce panel, documenté qu'il était transféré, et il est toujours transféré hors d'Afrique, en moyenne 50 milliards de dollars par an, de manière illicite. Et ces transferts prennent évidemment la voie des multinationales, qui sont responsables d'une bonne partie de ces transferts hors d'Afrique. Et donc, pour nous, l'optimisation fiscale est un sujet que nous connaissons déjà sur le continent. Et nous avons, après nos travaux, rencontré aussi bien les autorités américaines que les autorités européennes pour voir quel type de coopération nous pouvons obtenir des institutions de ces deux continents pour nous aider à non pas rapatrier des ressources sur l'Afrique, mais à maintenir tout simplement ces ressources à l'intérieur du continent. Je vous fais remarquer tout simplement que 50 milliards de dollars, c'est plus de deux fois l'aide publique au développement qui est accordée à l'Afrique subsaharienne tous les ans.
Est-ce qu'il y a des exemples emblématiques de cette optimisation fiscale de compagnies internationales implantées en Afrique qui font sortir l'argent?
Oui, je vois ce qui est fait par les entreprises minières, par exemple en Afrique du Sud, comme au Congo démocratique. Il y a des cas notoires d'évasion fiscale ou de transfert tout simplement qui n'ont pas sans contrepartie.
Mais est-ce que ça n'est pas de la responsabilité aussi des États africains qui ne sont pas assez rigoureux?
Ah oui, bien sûr, il y a la responsabilité des États africains, c'est un fait. Mais il y a aussi le fait que ces États sont dans la plupart des cas sous-équipés pour justement exercer le contrôle le plus efficace sur ces entreprises. Et c'est pour ça que des mesures comme celles qui ont été prises par les États-Unis pour obliger les multinationales à déclarer dans leur bilan les activités qu'elles conduisent pays par pays, des mesures de ce type-là facilitent donc le contrôle par les États africains de ce qui sort de leur pays et donc de faire effectivement rapatrier ou de maintenir ces ressources sur le continent.
Alors la commission Thabo Mbeki à laquelle appartient Abdoulaye Biotchane doit publier un nouveau rapport courant janvier, dans quelques semaines. On a un peu l'impression cependant, Marcona et Sangui, à travers ce que dit Abdoulaye Biotchane, que les Africains sont un peu impuissants dans cette affaire, qu'ils comptent surtout sur les évolutions des réglementations fiscales européennes et américaines. C'est votre impression aussi ?
Les Africains sont impuissants et complices. Impuissant tout simplement parce qu'effectivement, comme il a dit, il n'y a pas suffisamment de mécanismes pour bloquer ce flux. Complice parce que quand un pays dispose en son sein des entreprises, vous avez plusieurs types d'entreprises en Afrique. Vous avez des entreprises nationales, des entreprises multinationales. Mais on constate malheureusement que les entreprises multinationales ont beaucoup plus d'avantages fiscaux que les entreprises nationales. Et si les entreprises nationales ne peuvent pas développer leur expertise, bien sûr avec cet allègement fiscal que les États accordent à certaines multinationales, il est évident que on va toujours assister à cette évasion fiscale. Ça c'est de un. De deux, pourquoi cet allègement, pourquoi cette facilité fiscale pour les entreprises multinationales? Et je l'ai dit, nous rencontrons toujours une sorte de collision. Parce que quand les États prennent des parts dans les entreprises multinationales, ces parts sont souvent synonymes d'individus, sont les individus, les politiques qui sont à la fois État et actionnaires simples.
Alors, Marcona Essangui, vous êtes gabonais, est-ce que votre pays est confronté à ce mécanisme directement ?
Bien sûr, mon pays est confronté à ce mécanisme. Je vous prends le cas de... le monsieur qui parle de Bruxelles parle du mécanisme américain, par exemple avec la loi de Trump qui exige que certaines multinationales qui sont cotées à la bourse de New York puissent déclarer le moindre centime dépensé. C'est pas le cas de certaines entreprises asiatiques qui arrivent chez nous presque avec des chèques en blanc et qui peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Juste pour, dans le souci, disent les dirigeants, d'attirer les investisseurs. Il y a ce qu'on appelle
impôt zéro. Mais est-ce que ce sont des entreprises qui viennent au Gabon pour y déployer une activité ou simplement pour défiscaliser en quelque sorte?
Ce sont des entreprises qui viennent déployer des activités. Sauf que dans ce déploiement des activités, la création d'emplois pour les locaux est très maigre. Et il y a toute une exonération d'impôts qui fait en sorte qu'on se pose la question s'il y a 100%. S'il y a impôt zéro, quels vont être les bénéfices du pays? Peut-être en créant des emplois. Cette création d'emplois ne favorise pas, je dirais, la création d'emplois parce qu'on arrive à des salaires qui n'arrivent même pas à résoudre le problème d'emploi et que ce sont des emplois, à la limite, des emplois saisonniers.
Vincent Vicard, c'est l'optimisation fiscale, ça que font ces entreprises asiatiques, que nous l'écrit Marcona et Sangui.
Alors c'est un petit peu différent. C'est de la concurrence fiscale entre États. Effectivement, l'outil fiscal est un outil d'attraction des entreprises multinationales. Après, la question qui se pose, c'est la question du retour pour le pays de la localisation de ces entreprises. Effectivement, quel est le contenu en emploi et éventuellement les impôts payés par ces multinationales. Mais c'est une question qui est relativement différente. S'il y a une localisation réelle de l'activité, on est vraiment plutôt dans le cadre de la concurrence fiscale entre États et non pas dans le cadre de l'évitement de l'impôt par les multinationales.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous parlons optimisation fiscale, un défi pour les États. Quatre invités autour de ce micro. Vincent Vicard, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Marc Onaï-Sangui, gabonais, membre de la coalition internationale Publiez ce que vous payez. Nicolas Mestre, économiste à la CNUSED. Et Didier Julienne, spécialiste des questions minières. On a vu qu'en Europe et aux États-Unis, ce sont les entreprises de l'Internet qui pratiquent beaucoup cette optimisation fiscale. En Afrique, ce sont pour l'instant essentiellement les compagnies minières. Ce sont des industries très différentes, le minier et l'Internet, Didier Julienne, ou est-ce que les mécanismes qu'utilisent ces entreprises sont les mêmes ?
Ben, c'est une question compliquée. Lorsqu'une entreprise Internet vient s'établir au Luxembourg, elle vient parce que elle passe un contrat avec l'administration fiscale de Luxembourgeoise qui lui dit vous paierez tant d'impôts pendant tant d'années. Donc elle signe un contrat. Okay. Et c'est un contrat à la carte, n'est-ce pas ? Une entreprise minière qui vient dans un pays africain, elle y vient d'abord pour exploiter un gisement. Donc pour créer des emplois locaux ou des emplois d'expatriés qui viendront y travailler. Et ensuite, si l'administration fiscale est suffisamment durcie, c'est-à-dire si elle est suffisamment solide, elle peut lever l'impôt et cet impôt est réemployé dans le pays. Or, ce que vous disiez à l'instant, monsieur, c'est que il vous semble que l'administration fiscale n'est pas assez durcie, si je puis me permettre cette expression, parce que elle n'est peut-être pas assez nombreuse, pas assez capable, pas assez étanche. Hein, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais une entreprise minière comme n'importe quelle autre entreprise dans un pays d'Afrique devrait pouvoir payer son impôt, l'impôt qui est dû localement. C'est totalement différent des entreprises de négoce, par exemple, qui, elles, ont besoin d'une base avec un taux d'impôt relativement faible.
Là, vous parlez des entreprises de négoce de matières premières.
De négoce de matières premières, qui de temps à autre sont couplées à des entreprises minières, qui font partie de la même entité, n'est-ce pas, et qui ont besoin d'un taux d'impôt relativement faible, parce que sur le négoce, on a bien évidemment des revenus extrêmement importants, mais des marges relativement faibles. Donc on ne peut pas faire de négoce, on ne peut pas arriver à faire de négoce avec un impôt beaucoup trop élevé. C'est bien une activité très compliquée. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les entreprises de négoce sont en général situées dans le canton de Zug, en Suisse, où on a des taux d'impôt qui peuvent être sur les profits de 10%, voire des moins ou peut-être ou différents. Mais pour répondre à votre question, je crois que d'une manière plus résumée, on ne peut pas comparer non une entreprise dans l'internet qui vient s'établir au Luxembourg et puis une entreprise minière qui vient s'établir au Gabon ou dans un autre pays d'Afrique.
Alors l'Afrique n'est pas seulement victime. Marc-Honoré Sangui, vous disiez qu'elle était aussi parfois complice. Elle est bien sûr actrice de ce phénomène d'optimisation fiscale. Écoutez le reportage d'Abdoulaye Rally, le correspondant de RFI à Port-Louis, à l'île Maurice.
Du 11e étage de la cybertour à Eben, l'ancien ministre de l'Industrie, Rajesh Jitta, contemple les bâtiments qui ont remplacé les champs de canne. Eben est devenu en 10 ans un haut lieu de la finance régionale.
Là, on est à Eben, cette petite ville où ce centre financier représente pour l'île Maurice. On gère des milliards de dollars.
Cette ville abrite les plus grosses sociétés offshore de Maurice et sert de lieu de transit des finances indiennes et africaines notamment. Les dernières statistiques font état d'un flux annuel de 4 à 5 milliards de dollars vers l'Inde, ce qui fait de Maurice le plus grand investisseur dans ce pays. Qu'est-ce qui explique cet intérêt pour le conduit mauricien? Clairette A.N., directrice de la Financial Services Commission, le régulateur.
Au niveau de la fiscalité, le gouvernement a simplifié le tout pour dire que tout le monde va payer 15%. 15% de nos jours, c'est très bas en comparaison avec les autres. Ça, c'est un atout. Mais il faut dire aussi qu'à Maurice, il n'y a pas de contrôle d'échange. À n'importe quel moment, vous voudrez rapatrier votre argent ou bien le mettre dans une autre juridiction, vous êtes libre de le faire.
Les avantages de la juridiction mauricienne ne s'arrêtent pas là. Le centre financier est aussi synonyme de zéro dépôt sur les sociétés et sur les dividendes. De même, créer une société offshore est une affaire aisée. Près de 21 000 sociétés utilisent ainsi la plateforme mauricienne. Les multinationales comme JP Morgan et Citigroup ont leurs filiales ici. Cependant, aucune voix dans le circuit n'osera montrer du doigt ce modèle. Paradis fiscal ? Afsar Ibrahim, directeur de BDO Maurice.
Il y a quand même une certaine hypocrisie autour de toute l'affaire. On accuse les pays qui sont comme Maurice en Afrique, mais par contre, c'est une pratique très courante en Europe, surtout en Angleterre. Le plus grand paradis fiscal aujourd'hui se trouve certainement à Londres ou à Singapour, ou même Delaware aux États-Unis. Maurice, si vous voulez, est quand même une cible facile. Dans la réalité, il n'y a pas de fondement dans ces accusations.
Pour répondre aux critiques récurrentes sur ces pratiques fiscales, Maurice renvoie ses détracteurs au certificat de reconnaissance signé par l'OCDE. L'organisation ne considère pas l'île comme un paradis fiscal.
Alors Vincent Vicard, vous en pensez quoi de cette situation de l'île Maurice? Est-ce que c'est un paradis fiscal ou pas?
Alors la question de ce qui est un paradis fiscal ou pas est relativement difficile à trancher. Il y a des listes officielles, par exemple la liste de l'OCDE qui vient d'être évoquée, mais il y a d'autres listes qui sont faites par exemple par des professeurs d'université spécialisés dans le sujet qui ont des critères de classification relativement différents. Et notamment, il y a un des critères qui est important, c'est le fait qu'il y ait un taux de taxation des entreprises relativement faible. Et en général, on s'aperçoit que ces pays-là, qui sont considérés comme des paradis fiscaux, sont des pays qui sont relativement bien gérés. C'est-à-dire qu'il y a des règles et une infrastructure judiciaire et juridique qui permettent un bon fonctionnement de l'activité, notamment de l'activité financière dans ces pays-là.
Nicolas Mestre, à la CNUSED, vous observez ce qui se passe à l'île Maurice ?
Pas de manière spécifique, mais c'est sûr que c'est parmi, disons, les juridictions qui sont considérées par notamment comme EPAC ou comme paradis fiscal. Mais pour revenir sur justement ce que disait l'intervenant de l'île Maurice, et là c'est mon point de vue qu'on partage complètement avec lui, c'est que pour nous, si on prend les paradis fiscaux, c'est pas l'image, disons, des petites îles perdues au milieu du Pacifique ou des micro-États, mais pour nous, les plus importantes sont certaines des économies de l'OCDE.
Citait Londres, le Delaware, et puis...
Tout à fait. On peut en continuer avec le pays qui nous abrite ici à Genève, etc. Et ça, c'est pas un point de vue, disons, qui est uniquement tenu par nous. C'est même le magazine hebdomadaire The Economist, qui est proche du monde des affaires, qui partage aussi ce point de vue, quoi. Donc, c'est, disons, il y a une certaine hypocrisie de, en effet, toujours s'attaquer sur les plus petits, alors que les gros États continuent à avoir, disons, au sein même de leur territoire, des entités qui permettent de procéder à l'évasion fiscale.
Marc Onaïssangui, je vous voyais opiner du chef quand votre voisin Vincent Vicard tout à l'heure disait que les pays qui pratiquaient cette optimisation fiscale étaient souvent les mieux gérés.
Ben, je partage cet avis parce que l'Afrique est devenue un gisement de matières premières. Disons, on vient en Afrique pour exploiter de la ressource. Et la plupart des pays africains, je suis du centre, je ne vois pas le Gabon devenir un paradis fiscal, tout simplement parce que les conditions ne sont pas favorables pour le devenir.
Alors, Abdullah Erali nous décrivait il y a quelques instants ce qui se passait à l'île Maurice. L'Afrique n'est pas absente de la concertation internationale contre l'optimisation fiscale. Écoutez ce qu'en disait Pascal Saint-Amans lors de l'interview qu'il m'a accordée. Pascal Saint-Amans, le directeur de la politique fiscale de l'OCDE.
Les pays en voie de développement souffrent beaucoup de ce phénomène d'érosion des bases fiscales et des transferts de bénéfices. Et c'est pourquoi nous associons les pays en voie de développement à ces travaux pour qu'ils puissent pleinement bénéficier et faire valoir leur point de vue dans les négociations en cours. On aura à compter du 1er janvier prochain une quinzaine de pays en voie de développement qui vont être associés à tous les groupes techniques de discussion du développement des actions pour lutter contre l'érosion des bases fiscales. On va avoir le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Zambie, le Kenya, le Ghana, le Nigeria.
On parle beaucoup pour les pays développés de l'optimisation fiscale des multinationales, surtout dans le numérique, des Google, etc. Mais il y a aussi beaucoup de compagnies minières qui procède à cette méthode de gestion.
Alors, on a effectivement des problématiques particulières pour les entreprises minières qui représentent une source de revenus très importante pour les pays africains, pour les pays en voie de développement en général. Et donc, on va avoir un groupe de travail spécifique sur ces problématiques-là de manière à développer des règles fiscales qui permettent de sécuriser davantage de revenus dans les pays sources, dans les pays où se trouvent les mines.
Alors, Nicolas Maestre, malgré tout, l'Afrique, elle est présente dans ces négociations internationales?
Alors, elle commence à gentiment l'être, et on se réjouit, disons, que l'OCDE agrandisse à chaque fois le cercle de pays de développement qui dans les négociations. Mais disons, il faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, les grosses décisions sont prises essentiellement par les économies de l'OCDE, quoi. Donc,
mais est-ce que ces décisions favorisent exclusivement les économies des pays développés, des pays membres de l'OCDE, ou est-ce qu'elles peuvent aussi générer des retombées positives pour les pays en développement?
Non, alors bien sûr qu'il y aura des retombées positives pour ces pays-là, mais il faut garder, disons, un œil attentif pour être sûr que le point de vue des pays en développement est réellement pris au compte au niveau mondial. Et à ce niveau-là, disons, on se demande pourquoi tout ça n'est pas géré plutôt au sein de l'ONU, qui serait la plateforme, disons, idéale pour traiter ces questions-là, plutôt que par un autre organisme, disons, restreint de nombre d'économies.
Vincent Vicard, vous en pensez quoi de cette problématique? Où est-ce qu'il faut négocier au sein de l'ONU ou au sein d'une organisation plus économique comme l'OCDE?
Ouais, le fait est qu'il y a un consensus au niveau international qui s'est créé au sein du G20 et donc qui a donné lieu à ce processus par l'OCDE qui avait des capacités à mobiliser sur ces questions-là, qui était à l'origine de ces conventions fiscales sur justement empêcher la double imposition et donc le système international tel qu'il avait été pensé initialement de taxation. Je pense qu'il y a aussi cet état de fait préexistant qui a permis d'aller vite au moment où il y avait un consensus. Mais il me semble que, effectivement, la question qui se pose aussi, c'est quels sujets sont traités au sein de ces négociations. On a parlé des économies du numérique, enfin des entreprises du numérique. C'est un sujet qui est sûrement très important pour les pays riches, mais peut-être moins important, et sûrement moins important pour les pays en développement, dans lesquels il y a moins de recherche et développement qui est conduit. Donc il faut aussi que les sujets qui sont traités soient aussi ceux qui concernent les pays en développement.
Marc Onaessangui, le Gabonais que vous êtes et le militant de la coalition internationale Publier ce que vous payez, est-ce qu'il est associé ou est-ce qu'il va être associé à ces travaux internationaux de lutte contre l'optimisation fiscale? Est-ce que vous en avez entendu parler?
Sur la liste qui a été communiquée, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays africains qui ont été cités, ce sont des pays qui présentent quand même un niveau de gouvernance politique appréciable. Et on ne peut pas dissocier tous ces débats fiscaux de la gouvernance politique. Et je pense qu'il faut d'abord faire un travail très 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 intéressant à ce niveau-là. L'environnement des affaires a besoin d'un environnement politique fiable.
Écho d'ici, écho d'ailleurs est maintenant terminé. Merci à vous quatre, Marc Onaessangui, Didier Julienne, Vincent Vicard et Nicolas Mestre d'y avoir participé. Guillaume Munier était derrière la vitre à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet RFI.fr et nous podcaster éventuellement à la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.